Je suis avec Paul Béorn au festival Trolls et Légendes à Mons. Bonjour.
Bonjour.
Donc on s'était déjà vu dans le cadre des Utopiales pour le premier volume. Et là, on va discuter du coup de la suite de La Perle et l'Enfant, donc avec le hussard amoureux. Ma première question, alors ça va peut-être faire un petit peu spoiler pour ceux qui écouteront l'interview, donc faites attention si vous n'avez pas lu les bouquins, écoutez plutôt la première. Dans le deuxième tome, donc Jeanne est pourchassée et elle ne veut plus représenter la loi, elle se cache de son habit rouge, etc. Pourquoi avoir choisi de lui faire vivre une telle déchéance alors qu'en fait c'est le rêve de sa vie d'être devenu justement soldat?
C'est pas un choix de sa part, c'est qu'elle se rend compte qu'en fait, quand on représente l'autorité, il faut pas aller au-delà de son mouvement, elle est trop loin en fait. Elle a fait plus que ce qu'on lui demandait. Et ça se retourne contre elle. Elle s'aperçoit que ce pouvoir qu'elle défendait n'est pas un pouvoir forcément sympathique. Donc ce rêve, c'est plus de porter l'uniforme. Mais ça reste le rêve d'aider les gens et de faire en sorte que les choses aillent mieux.
Donc une transformation en fait.
Une prise de conscience que le pouvoir qu'elle servait n'était pas forcément un pouvoir très sympathique.
Il y a beaucoup d'informations qui sont livrées sur son enfance, sur son expérience traumatisante, etc. Les raisons justement de son engagement chez les Rouges. Comment s'est fait le choix au niveau des moments où on donne justement ces informations au lecteur? Est-ce que ça a été fait, est-ce que tu as fait ça tout seul ou est-ce que l'éditeur t'a éventuellement, lors des corrections, aiguillé en disant là c'est un petit peu trop tôt ou là c'est un petit peu trop tard?
Non, l'éditeur ne m'a rien dit sur ce sujet-là. C'était une volonté de ma part de laisser en suspens ces questions dans le tome 1 et de les évoquer au fur et à mesure du tome 2, à partir du moment où ce passé commençait à rejoindre le présent, puisqu'on voit des liens évidemment entre les deux affaires.
Dans le deuxième tome, elle est, si je peux dire, en quelque sorte toute seule. Il y a beaucoup moins d'intervention de la Perle. Quel est le but que tu as poursuivi en obligeant Jeanne à se débrouiller toute seule?
Alors là, je crois que l'auteur, je ne sais pas si c'est le but qu'il poursuit en fait. Il écrit un roman, puis après il regarde et il se pose des questions. Tiens, qu'est-ce que j'ai écrit? En l'occurrence, je pense que en le regardant comme ça, je pense qu'il fallait pas trop tirer sur la corde. On avait un personnage et un duo qui fonctionnaient assez bien. Mais si on n'avait pas apporté de rupture, on aurait peut-être tourné sur une routine qui aurait été lassante. Là, la Perle ne disparaît pas, mais elle change un peu de rôle. Leurs interactions deviennent plus physiques, puisqu'ils peuvent échanger un peu plus que des paroles. Mais à certains moments, il faut aussi briser cette espèce de connivence qu'il y a entre eux pour apporter un peu de nouveau dans cette histoire. Même si à la fin, il la retrouve, cette connivence. Ça reste un des fils conducteurs, mais effectivement, il y a plusieurs scènes, des scènes importantes où il n'est pas là. Il n'est jamais très loin quand même. Hein.
Sur la transformation physique de Jeanne, cette idée-là, ça vient un peu de nulle part. On découvre ça un petit peu au fur et à mesure. Alors, il y avait déjà eu des petites esquisses, on va dire, parce qu'elle devenait un petit peu plus féminine dans le premier tome. Dans le deuxième, ça s'accélère. Ça vient d'où, cette volonté de la transformer?
Jeanne, c'est presque une adolescente, elle a 18 ans. Et un des thèmes de l'adolescence, c'est la transformation du corps, notamment chez les filles. En se transformant, elle devient adulte. Et je ne sais pas si je peux raconter la fin, mais... Vers la fin, elle finit par renoncer à cette transformation en se disant l'important c'est pas d'être forcément comme les gens veulent me voir, mais d'être comme je suis. Voilà. Alors ça paraît un peu banal comme thème, mais traité en fantasy, c'est plus rare, je pense.
Oui, d'autant que là, ça se fait vraiment dans la continuité. Il n'y a pas le côté, c'est pas une transformation roman initiatique. C'est vraiment nourri par la nécessité de l'aventure et de ce qui lui arrive.
En fait, elle se transforme. Parce qu'évidemment, elle devient plus adulte. Elle se transforme aussi dans un modèle qui n'est pas tout à fait elle-même, qui est un personnage, une sorte de fantôme qui l'habite. Mais elle se rend compte, et elle n'est pas très à l'aise avec ce nouveau corps. C'est pas quelque chose qu'elle recherche. Et elle finit par se dire, mais non, mais je veux mon ancien corps, même si je suis moins jolie, je préfère être comme je suis exactement et me retrouver dans ce corps-là.
L'arbre omniscient, c'est... C'est des références par rapport à des lectures de fantasy ou...
Alors, des arbres en fantasy, il y en a beaucoup. Et ça vient aussi de l'arbre de vie. Mais bon, après il y a les références et puis la façon dont on les traite. Cet arbre omniscient, je veux bien l'idée que cette ville est une sorte de gardien. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve souvent en fantasy. Et c'est un gardien tout à fait bienveillant, ce qui est assez rare finalement. Et c'est un gardien bienveillant qui n'a pas l'intention de prendre le pouvoir ou de dominer. Et ça c'était une idée qui me plaisait bien. Il a juste l'intention d'aider les gens, les mettre en relation. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un arbre comme ça dans le jardin.
que des bonnes nouvelles, juste le petit coup de pouce qui fait qu'on choisit encore son destin.
Exactement. Des choses pas très, qui ne paraissent pas très importantes et qui le sont finalement énormément. Faire le lien entre les gens, permettre que les informations circulent et que les gens puissent se voir, se parler, même quand ils sont séparés par un pont et par une loi.
Au final, du coup, avec l'arbre, les transformations, c'est la magie qui aide énormément Jeanne, alors qu'au départ, on part du principe qu'elle est complètement imperméable à justement la magie. L'idée du couple impossible, magie anti-magie, c'est le principe très souvent utilisé de l'opposition qui fait que c'est intéressant.
Oui, au départ, on connaît pas bien ce monde, puisqu'on le découvre dans le tome 1. C'est un monde où la magie semble quelque chose d'assez négatif, hein, qui essaie de vous attraper dans des pièges... Et finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans ce tome, on s'aperçoit que la magie, c'est pas forcément uniquement négatif. C'est une création humaine, et comme toute création humaine, elle peut être négative ou positive. Et effectivement, Jeanne va bénéficier de cette magie, mais sans se laisser dominer par elle. Ce qui va en faire un personnage très différent de la plupart des gens qu'elle va rencontrer. À aucun moment, elle se laisse emporter. Alors, elle en bénéficie, seulement.
Il n'y a pas le côté corruption ou grand destin qui est avec ce qu'on retrouve souvent sur les quêtes initiatiques, avec je trouve une arme ou je trouve un anneau et puis je deviens un peu le maître du monde ou j'ai une destinée, quoi.
Non, elle trouve juste une perle qui parle, qui est très bavarde, qui l'aide un peu, certes, mais bon, ça va pas faire d'elle la maîtresse du monde. D'ailleurs, c'est pas du tout sa volonté. C'est une fille discrète, timide, qui a envie d'aider les gens, mais pas du tout envie de devenir le roi ou la reine d'un quelconque royaume. C'est pas son but. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens n'ont pas tellement envie d'être non plus roi du monde. Moi, c'est pas du tout mon intention, en tout cas.
Il y a des explications qui sont données à la fin du livre, notamment sur le calendrier, sur les 10 commandements des Sylves. Est-ce qu'on peut commencer la lecture justement en allant chercher tout ça pour avoir des petites clés dès le départ, ou est-ce qu'il faut au contraire se le garder pour la fin pour pas avoir trop de révélations?
Ah, ça, je pense que on peut les lire sans que ça gâche le reste du roman. Cela dit, c'est plus amusant à lire quand on a déjà lu le roman, parce que ça, c'est des clins d'œil à des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire. Et certains m'ont dit, oui, ça permet que la fin soit un peu moins abrupte. Quand on a arrêté le roman, on peut au moins se relire dans ces annexes-là. C'est pas tout à fait fini, donc je préférais les mettre à la fin.
Est-ce que tu as une envie de revenir dans ce monde-là? Et je pensais personnellement éventuellement à une préquelle justement avec Abel.
Ah, j'avais déjà imaginé, j'ai presque écrit un roman, non pas sur Abel, mais une préquelle qui se passe bien bien longtemps avant, en fait, au moment du premier dragon qui est apparu sur le monde. Alors peut-être qu'un jour j'en ferai une histoire bien travaillée et que je la proposerai à Mnemos, mais pour l'instant c'est pas un projet immédiat.
Et justement, tes projets actuels?
Ah, mes projets actuels, c'est un roman dans un tout autre univers, beaucoup plus proche de la France, de l'histoire de France et de la tragédie Qatar. Mais c'est en l'état de projet encore.
Cette année, pour terminer nos interviews, on a une autre question. Si on te donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, qui serait cet artiste?
L'artiste de tous les temps qui m'a le plus influencé, c'est Tolkien. Donc si je devais voir quelqu'un, si je devais ressusciter quelqu'un sur Terre, ce serait Tolkien pour pouvoir lui parler. Mais je sais pas tellement quelle collaboration je pourrais avec lui, je serais beaucoup trop timide et je pense que j'aurais rien à lui apprendre. Enfin, j'aimerais bien beaucoup lui serrer la main, oui.
Un mot peut-être sur l'ambiance du festival?
Ce qui surprend ici, c'est le monde, l'affluence et également la façon dont les gens sont tous déguisés. Et qu'on a vraiment l'impression d'être dans un autre univers, presque un univers inventé, de fantasy, ouais.
Merci.
De rien, tout le plaisir pour moi.